En BFM hier, est-ce que tu penses que ce sujet de la robotique et de l'intelligence artificielle est pertinent ou pas ?
L'intelligence artificielle générative a le potentiel de révolutionner la robotique en permettant aux robots de générer des réponses et des actions de manière autonome et créative. Cela ouvre des possibilités inédites, comme des robots capables de comprendre et de réagir de manière plus naturelle aux besoins des humains. Avec des experts comme Jérôme Monceau, Luc Julia et Jean-Louis Constanza, tu auras des perspectives précieuses sur cette transformation majeure.
Elle est en train vraiment de prendre ma place, quoi. C'est terrible, cette histoire-là. Et je vous présente justement nos invités qui sont là pour parler robotique. Jérôme Monceau, Luc Julia et Jean-Louis Constanza. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Luc Julia qui était avec nous pour débuter cette émission et qui nous fait l'amitié d'être toujours là pour commenter ce sujet passionnant qui est la robotique et l'IA. Jérôme Monceau, bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Co-créateur des robots humanoïdes Pepper et Nao à l'époque d'Aldébaran et fondateur d'Enchanted Tools avec ce petit robot qu'on va vous montrer qui est juste là sur le plateau de la nuit de l'IA qui est incroyable. C'est Miroki, hein,
ça. Miroki, oui.
Voilà, c'est ça, Miroki. C'est une fille ou un garçon d'ailleurs ?
Tiens, je Miroki, me pose la question. C'est un garçon.
C'est un garçon.
Sa sœur s'appelle Miroka, c'est des jumeaux.
Voilà, c'est ça, Miroka et Miroki. Voilà, bonjour. Bonjour Miroki. Et bonjour à Jean-Louis Constanza, merci d'être là Jean-Louis, cofondateur de Wondercraft. Alors, chacun, vous êtes passionné évidemment par ces sujets, hein. La robotique, vous avez sans doute vu le petit sujet d'Anthony qui est passionnant. On voit la rapidité avec laquelle ces technologies évoluent. On regarde Figure 01, c'est impressionnant, Luc. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo de ce robot qui, grâce à l'IA générative, arrive à comprendre ce qu'on lui dit et arrive à trier des choses qui sont sur une table, à ranger des assiettes, à mettre des détritus dans une poubelle. C'est incroyable.
Alors, je ne sais pas si c'est l'IA générative pour trier, pour ranger.
Ah, c'est peut-être autre chose.
Ouais,
en fait.
Je pense que c'est des IA qui sont des IA précédentes de perception. Par contre, les IA génératives, effectivement, sont très très utiles pour tout ce qui va être interaction. Donc, compréhension de ce qu'on est en train de lui raconter, et puis lui, compréhension de ce qu'il va faire, de ce qu'il va pouvoir faire. Donc ça c'est définitivement intéressant. Ce qu'on disait un peu en introduction, quand on parlait de ces dialogues qui vont prendre en compte le contexte, et donc qui vont pouvoir faire en sorte de comprendre vraiment des conversations.
Comprendre, ça veut dire que ça va comprendre, ça veut dire qu'on pourra avoir des discussions avec ce type d'objet lié à une intelligence artificielle générative, tu penses ?
Ouais, mais quand tu réfléchis bien, en fait, tu pouvais déjà avoir des discussions avec Internet. D'accord, c'est toi qui gardais le contexte en quelque sorte et tu continuais avec à travers Google même d'avoir des discussions entre guillemets avec Internet. Là, tu vas pouvoir avoir des discussions beaucoup plus naturelles parce que ça garde le contexte et ça permet de te relancer en quelque sorte. Mais les discussions, c'est des choses qui existent depuis longtemps et qui existent que tu peux retrouver assez facilement. Les modèles de dialogue, tu retrouves ça assez facilement sur Internet depuis très très longtemps.
Oui, c'est
donc,
vrai.
Donc c'est, je dis pas que c'est pas impressionnant. Je dis juste que c'est un pas normal vers ce qu'on veut faire dans l'interaction, dans l'interactivité. On veut pouvoir effectivement donner des ordres de manière plus facilement à ces robots. Avant, c'était ce qu'on appelait du command and control. Donc, je disais marche, va, là. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus naturel.
Jérôme, est-ce qu'on est à l'aube d'une petite révolution, justement, de ce mix entre ce que vous faites avec Enchanted Tools et cette IA qui est en train de progresser?
Alors moi, je pense très sincèrement, oui, je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme aujourd'hui sur la manière dont on aborde la conception de robots humanoïdes. Juste pour vous donner quelques éléments, c'est quand on développe des robots il y a 15 ans, 10 ans, on doit coder tout ce que le robot fait. Ouais. C'est-à-dire on doit prévoir chacune des réactions, chacune des actions, chacune des perceptions, chacun des comportements doit être codé. Si tu vois ça, alors tu fais ça. Si c'est ça, alors tu fais ça. Aujourd'hui, on a accès à un espèce de sens commun, parce que c'est ça qui est encodé dans les LLM ou les IA génératives de manière générale, qui permet au robot de faire face à des situations inattendues. Et il va générer lui-même son comportement. Ça peut être la parole, mais ça peut être un mouvement, ça peut être un déplacement dans l'espace, ça peut être une saisie d'objet. Et tout ça, d'une manière pertinente, en tout cas, de l'ordre du sens commun des machines. Imaginez, hein, avant, on dépensait des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros pour aller créer du contenu d'une machine qui, au final, est ennuyante au bout de quelques mois. Ouais. Maintenant, on met des IA génératives dans les robots et ça gère plein de situations d'une manière complètement étonnante et super fun si on l'a bien éditorialisé.
Le fait qu'un robot comprenne ce qu'il a devant lui, grâce à ses caméras, grâce à ses capteurs, tout ça, c'est grâce à quoi ? L'IA aussi, pour qu'il sache que, bah, voilà, il a devant lui une petite boule de papier qu'il doit mettre dans une poubelle, par exemple. C'est la démo qu'on a vue tout à l'heure avec Figure.
Ça, c'est du sens commun. Le mot IA, on sera tous d'accord pour dire que c'est un peu un mot fourre-tout, quoi.
Oui, galvaudé.
On met ça dedans dès qu'on comprend pas, quoi. Il y a du machine learning, beaucoup, tu en faisais référence tout à l'heure. C'est-à-dire, on sait très bien segmenter les choses et puis on sait surtout très optimiser un algorithme pour reconnaître une chose en particulier.
C'est-à-dire que la caméra du robot va voir la boulette de papier et va, parce qu'elle en a vu des millions, savoir que c'est une boulette de papier.
Ça, c'est un modèle d'IA, effectivement, qui va utiliser des réseaux de neurones, mais après, il y a d'autres techniques pour reconnaître des trucs encore plus spécifiques. Okay. Mais pour tout ce qui est sens commun dans la robotique, pour la question qui était posée tout à l'heure sur Figure, en fait, effectivement, je pense que là, aujourd'hui, j'utilise des algos qui sont plus ou moins dédiés à la perception d'un contexte bien donné, mais le grand challenge pour les roboticiens, et en particulier la robotique humanoïde, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des end-to-end, c'est-à-dire on prend la totalité des capteurs du robot et on adresse la totalité des actionneurs du robot. Alors ça, c'est pas encore le cas, il va falloir du temps pour le faire, mais surtout, il va falloir des données. Et pour avoir des données, il faut des robots dans la réalité. Et ça, c'est notre challenge. Nous, dès 2027, on souhaiterait avoir 5000 robots diffusés de manière à pouvoir commencer à générer ces données qui sont si utiles à l'entraînement des modèles.
Jean-Louis Constanza, alors vous êtes sur un autre créneau, celui de Wondercraft, qui permet de redonner de la mobilité à des personnes qui sont tétraplégiques, qui sont voilà, qui ne peuvent plus marcher. Et c'est évidemment de la robotique vraiment, parce que en fait, c'est cette personne-là va chausser une espèce d'exosquelette qui va lui redonner la possibilité de marcher. Et j'imagine que là encore, l'IA, alors qu'elle soit générative ou traditionnelle, on va dire, elle est au cœur du fonctionnement de tous ces exosquelettes que vous mettez en place.
Oui, chez Wondercraft, on a commencé à créer des robots marcheurs qui sont aussi des exosquelettes, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne marche pas va pouvoir enfiler ou en tout cas se mettre à l'intérieur pour remarcher. Et le principe initial, c'était de recréer, en fait, une des choses qui est les plus difficiles en robotique, c'est la marche. La marche, c'est un phénomène magique qui a pris des centaines de milliers d'années d'évolution. Et il faut encore après 18 mois pour apprendre à marcher quand on est bébé, et qui était vraiment réputé comme très difficile à imiter par un robot. Et donc il a fallu, et nous avons commencé, comme Boston Dynamics a commencé, en résolvant en temps réel des équations très complexes. Et donc ça fait que quand mon robot va marcher, s'il a un léger déséquilibre, et la marche est un permanent déséquilibre parce qu'on tombe en avant.
Et nous on a la voûte plantaire qui gère, qui est connectée au cerveau.
Mais le robot il a aussi des capteurs, on voit la version hôpital de notre exosquelette là sur l'écran. Donc on résout ces équations en temps réel, et plus on perfectionne le robot, plus on avance dans les cas d'usage. Là, par exemple, on va descendre une marche. Mais si on avait un escalier plus compliqué, s'il faut monter dans une voiture, s'il faut commencer à courir, parce qu'on n'est pas encore en train de courir, ou à marcher sur des sols difficiles, on peut pas, et c'est ce que disait Luc tout à l'heure, on peut pas tout programmer. On peut pas prévoir des équations pour les cas. Et comme ce sont des équations, mais non linéaires, il faut à chaque fois avoir des modèles mathématiques différents. Et donc, nous, ça fait des années qu'on a commencé en parallèle à travailler sur de l'IA, donc dans la catégorie de l'apprentissage de la machine, machine learning, et avoir nos propres serveurs pour faire... En fait, on a un modèle parfait de notre robot avec quelqu'un dedans, informatique, et au début de la semaine, par exemple, il ne sait pas marcher, il ne sait pas se lever, il ne sait rien faire, et puis il va tomber 100 000 fois, 200 000 fois. À la fin de la semaine, on a fait des milliards de simulations, et au bout de plusieurs semaines, de plusieurs mois, on est capable de réinjecter ce qu'on vient de fabriquer, de le mettre dans le robot. Et le robot va se mettre à marcher plus vite. Il va se mettre à éviter les chutes. Et on en est là, en fait.
Donc, il apprend, j'allais dire tout seul, c'est pas vrai, mais disons que vous lui apprenez à apprendre.
En fait, on court-circuite 300 000 ans d'évolution et 18 mois d'apprentissage, un petit peu avec les mêmes mécanismes, mais il faut être très méfiant de ces analogies, en fait. C'est une machine, c'est vraiment une machine.
D'accord.
Donc, elle n'apprend pas, ou pas dans le sens où on l'entend d'habitude, mais elle développe des réflexes qui lui permettent d'aborder la marche. Si on le pousse, elle va pas tomber parce qu'elle va faire un pas de côté. Si elle comprend parce que la personne à l'intérieur dit, je voudrais me lever, ou le dit avec la voix, elle va se lever, etc. Donc c'est de plus en plus faire des mouvements humanoïdes qui convergent vraiment vers l'humain.
Avec une dimension humaine incroyable pour Wondercraft, c'est la possibilité à des personnes qui ne peuvent plus marcher de remarcher. Vous en êtes où aujourd'hui?
Alors, on commercialise depuis 5 ans l'exosquelette que vous voyez en ce moment à l'écran, qui est un exosquelette d'hôpital, qui est encore assez volumineux, qui est conçu pour être utilisé par plein de gens. Et par rapport au Rubin, c'est d'ailleurs le premier robot marcheur du commerce. Tous les autres sont des prototypes figures, Boston Dynamics, Tesla, etc. Et ça fait 5 ans qu'on a un robot marcheur.
Vous êtes les premiers au monde
à avoir un robot humanoïde, si vous voulez. Alors, on fait que le bas, hein, mais
un exosquelette, un marcheur, voilà, d'accord, ok.
Qui est équilibré, qui marche, etc. Et là, on a dévoilé en décembre, à New York, le premier prototype du robot personnel. Donc, il est beaucoup plus fin. Il marche mieux, de façon plus fluide. Et il sait faire progressivement tout ce qu'on a besoin de faire chez soi et dans la rue. On est en train, pour la première version de cet exosquelette, de commencer le circuit de la FDA. Donc, on y est, en fait, dans un an et quelques mois.
Il sera commercialisé.
Moins de 2 ans. Il sera commercialisé et aux États-Unis, figurez-vous qu'il est remboursé par Medicare.
Et là, vous parlez que des États-Unis, c'est-à-dire qu'en France, ça sera beaucoup plus compliqué parce que je crois que la réglementation est plus.
Non, la réglementation américaine est dure aussi. Et on fait les deux en parallèle.
D'accord.
On n'a pas encore de remboursement en France, mais on travaille avec les autorités de santé pour avoir aussi un remboursement en France. Notre but, c'est de faire que les 30 millions de personnes en fauteuil roulant, un jour, quand on ne pourra pas encore guérir leur pathologie et leur redonner la marche, puissent utiliser un exosquelette pour faire exactement tout ce qu'ils font dans leur vie quotidienne. Et l'IA vraiment est en train de casser les barrières.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on pourra courir, on pourra marcher dans le sable, on pourra aller beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait faire.
Jean-Louis Constanza, ça me fait penser à Neuralink, la société d'Elon Musk qui, rappelons-le, implante des puces dans le cerveau et qui permettent en fait à des personnes aussi qui sont tétraplégiques de pouvoir piloter un jeu vidéo, de pouvoir faire des petites tâches devant des écrans. Le fantasme, c'est de se dire que demain, votre technologie est connectée au cerveau directement d'une manière ou d'une autre et qu'en fait la personne puisse retrouver une autonomie, on va dire presque naturelle, sans avoir de télécommande ou de bouton à manipuler. Est-ce que c'est un truc? Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous dites non, c'est une très mauvaise idée? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Alors, on a fait des essais, on n'en rêve pas. Bien sûr, la manière dont la personne va communiquer avec son exosquelette, c'est un problème qu'on connaît tous. C'est l'interface machine, c'est vraiment une grande question. Nous, pour l'instant, on va prendre des choses simples dont les gens ont l'habitude. Il ne faut jamais faire trop de changements en même temps. Et le joystick du fauteuil roulant électrique qu'ont nos premiers utilisateurs, c'est un objet tout à fait passionnant, tout à fait sympathique et qui est parfaitement connu. Connecter directement le cerveau d'une personne, c'est une technologie très lourde et qui, pour l'instant, ne permet pas un très grand vocabulaire. On peut dire au bas, gauche, droite. Ce n'est pas évident qu'on puisse dire avec fiabilité stop quand on est au bord du passage piéton et qu'il y a un bus qui arrive, par exemple.
D'accord.
Et c'est pas évident non plus qu'on puisse dire je voudrais m'asseoir de telle façon et prendre ce verre et le boire sans le renverser et le reposer derrière mon ordinateur.
D'accord.
Donc on en est assez loin en réalité, puis c'est assez lourd, faut faire des trous. Mmh. La plupart de nos utilisateurs sont vraiment contents avec soit une commande vocale qu'on a mis au point mais qu'on n'a pas encore certifié, soit un joystick, soit ce qu'on fait dans les vidéos que vous voyez là où en fait simplement l'utilisateur se penche en avant, on a une sorte de pâle inertielle qui détecte son mouvement. Il détecte son intention par le biais de mouvements naturels. Et ça, c'est très naturel et très efficace aussi. Je me penche un peu à droite, je vais tourner à droite, etc.
Jérôme, on parle depuis tout à l'heure de robots marcheurs. Vous êtes parti sur, j'allais dire, c'est un contre-pied, sans mauvais jeu de mots, avec Miroki, puisque en fait, Miroki n'a pas de jambes, en fait. C'est une boule qui lui permet de se déplacer. En fait. C'est une autre vision en fait, de la robotique.
C'est pas forcément une autre vision, mais en tout cas, il y a de la maturité dans notre approche des robots bipèdes. On en a fait déjà il y a longtemps. En 2005, on commençait Nao, 11 moteurs pour aller faire la marche. Plus tard, on a fait Romeo, il y en avait bien plus, j'ai un peu oublié, pour faire de la marche. Et la promesse de la marche, c'est de pouvoir évoluer dans un environnement humain. Et pouvoir potentiellement tout faire comme ce que vous cherchez à faire, c'est très bien. Rentrer dans une voiture, monter des escaliers, résoudre des problèmes compliqués comme ça mécaniquement. Mais en fait, en vrai, est-ce que pour être utile, c'est ça le point bloquant. Est-ce que c'est vraiment ça dans les hostos, dans les restos, dans les hôtels? Est-ce que c'est vraiment ça le point bloquant? Et puis même si on y arrivait, est-ce que dans ces endroits-là, on voudrait avoir un morceau de métal, je parle pas de ton application, mais je parle bien des robots humanoïdes, de 70 kilos qui est en train de grimper un escalier là où nos gamins où les gens qu'on tient pourraient eux-mêmes marcher. Non, on veut pas ça. Et des robots humanoïdes, oui, ils peuvent faire des choses, ils peuvent nous aider vraiment au quotidien. On a des gros problèmes à adresser. Eh bien, commençons par résoudre le problème le plus évident. Faisons-les évoluer dans un endroit plat, avec des rampes d'accès compatibles avec...
Mais Miroki ne pourra pas attaquer des escaliers, par exemple.
Non, mais ça ne m'empêchera pas. Mais au contraire, moi j'ai 3 moteurs pour faire tenir ce pendule.
Oui, voilà, c'est ça.
Seulement 3 moteurs. Calculer l'impact en termes de puissance consommée, calculer l'impact en termes de masse, en termes de risque de panne, en termes de coût de maintenance. Mmh. Et vous allez vite voir que l'équation, elle est complètement à la faveur de ce genre de choses.
Luc, tout ça, ça fait... c'est assez impressionnant, enfin, le cas de Jean-Louis, que tu connais bien, et puis celui de Jérôme. Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Ben moi, ce qui m'inspire déjà, c'est tout ce qui va être la relation entre l'humain, un peu ce que tu disais à propos de Neuralink, de commander. En fait, il n'y a pas que la commande humaine. Il faudrait pas que ce soit l'humain qui décide de tout. Il y a aussi le contexte qui est important, et il y a plein de choses qu'il faut comprendre de l'environnement afin de faire en sorte que ces robots, que ce soit ceux qu'on porte ou ceux qui sont un peu plus autonomes, comprennent cet environnement et fassent des choses sans que moi j'ai à les commander. Parce qu'un des problèmes qu'il y a dans ces trucs de Neuralink, c'est qu'il faudrait que je sois absolument en commande de tout. Mmh. Et ça, je ne peux pas. Et donc, la compréhension de l'environnement est quelque chose aussi très, très intéressant. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux que le robot fasse des choses par lui-même, soit autonome, plutôt que d'avoir des choses où on dit « on va commander avec notre cerveau ». Donc ça, c'est, je pense que c'est super important de comprendre ça. Alors, j'ai rien contre Neuralink, comme tu sais, mais...
Un petit peu contre Elon Musk.
Un petit peu, oui. Mais c'est tout. Non, mais ça m'inspire, c'est magnifique. Je veux dire, à partir du moment où on peut aider les gens, que ça soit avec des trucs qu'on porte pour les gens qui ont des difficultés à marcher, etc., ou que ça soit pour des robots qui vont venir des robots de service, des robots interactifs, c'est génial. C'est une bonne direction.
On imagine Miroki dans quel contexte, en fait ? Il pourrait servir à quoi ? Dans des hôpitaux, dans des magasins, à la maison, peut-être un jour ?
Alors, déjà, très manifestement, il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, il y a une course à la robotique humanoïde. On en voit naître très souvent aux États-Unis. Depuis 2 ans à peu près, on a cité Elon Musk, figure, il y en a beaucoup d'autres, en Chine également, et on a toujours à peu près le même genre d'approche, c'est-à-dire c'est des robots avec lesquels on n'a pas envie de vivre particulièrement. Vous regardez le robot de Tesla, il est très très bien réalisé, mais il a 2 degrés de liberté, c'est l'autre figure qui n'avait pas de degré de liberté du tout dans le cou, le visage est noir, il n'y a pas d'expression, et puis même la voix, c'est un peu étonnant. Alors imaginez-vous dans votre maison de retraite, dans votre resto ou dans votre hôtel, accompagné par ce genre de choses, c'est pas l'idée qu'on a envie du futur, en tout cas pour nos proches et pour les gens qui comptent. Nous, on a pris le pli de se dire, si on fait des robots humanoïdes, c'est pour interagir avec les gens. C'est pour être face à eux. C'est là où ils prennent sens, de pouvoir coopérer sur la réalisation d'une fonction, les aider à assumer certaines situations. Et donc notre personnage est vraiment dédié à ça, dans tous ces lieux où il y a des humains, des endroits où il peut se déplacer et des objets.
Combattre la solitude aussi, lui, ça peut être quelque chose d'important, non ?
Tout à fait, c'est pour ça que l'interactivité est très importante. C'est pour ça aussi, par exemple, dans ce robot en particulier ici, avoir les expressions faciales et puis des voix engageantes, le fait qu'ils te comprennent correctement. Enfin, il y a plein de choses qui sont très, très importantes dans cette interaction homme-machine.
Est-ce que demain, Jérôme, on pourra avoir un robot majordome à la maison ? C'est quelque chose qui reste encore dans le domaine de la science-fiction ou pas ? En quelques secondes.
Non, je pense que c'est réalisable. Alors après, majordome, ça définit quelque chose, une fonction qui est plutôt humaine. Il va falloir trouver la fonction de ces personnages fantastiques. Peut-être qu'ils apporteront autre chose que ça. Mais c'est réalisable dans l'esprit.
Passionnant tout ça. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Luc Julia, directeur scientifique de Renault Group et co-créateur des Siri. Je suis sûr qu'à Renault, on s'intéresse de très très près à toutes ces interactions entre les machines et l'intelligence artificielle générative. Tu viendras nous en reparler, bien évidemment. Jérôme Monceau, donc co-créateur des robots humanoïdes Pepper et Nao et fondateur d'Enchanted Tools. Et merci aussi à Jean-Louis Constanza avec ce magnifique projet qu'est Wondercraft.
François, après toutes ces discussions passionnantes sur l'IA, est-ce que tu te verrais confier la présentation de la prochaine émission à un robot ? Promis, je ne serai pas jalouse.
Eh bien, on verra bien, mais j'aimerais bien moi faire co-présenter l'émission demain avec Miroki, pourquoi pas. Il a l'air vraiment très sympa.